général lui aussi, Eisenhower. Parti de Villacoublay, l'escorte automobile emmène De Gaulle vers Paris. Au moment où le convoi débouche dans l'avenue de Versailles, trois voitures banalisées foncent de la rue de la Convention vers le pont Mirabeau. Là, Bastien Thiry a prévu de glisser trois véhicules dans le convoi du général, pas moins. Puis de doubler la déesse du président et d'ouvrir le feu sur lui, de face. Une véritable exécution. Un détail pourtant va gripper la réalisation du complot. Le chauffeur du président, Paul Fonteuil, ce jour-là, décide brusquement de prendre la voie sur Berge. A-t-il aperçu quelque chose, un véhicule suspect ? On ne le saura jamais. Mais les conspirateurs ne lâchent pas leur proie. Les véhicules de Bastien Thiry bifurquent et se ruent pour rattraper la déesse noire. Ils réussissent à se faufiler, à s'infiltrer, à arriver à la hauteur de la voiture présidentielle. Personne dans le service d'ordre n'a rien remarqué. Voilà donc l'automobile des tueurs à la hauteur de celle du président. Le conjuré Watin cadre parfaitement du regard la silhouette bien connue. Il baisse sa vitre, saisit son arme, plus que quelques mètres entre le tueur et sa cible. Il s'apprête à tirer, et à ce moment, vous connaissez ce genre de conducteur parisien qui ruse pour s'immiscer à tout prix dans la file avant les autres ? Eh bien, un pareil conducteur fait le forcing pour passer en premier avec sa 4 chevaux. La Renault s'interpose, elle masque la déesse pour le tireur. Le numéro 2 de l'opération, prénommé la Tocnay, c'est Gozzi. Stop ! Stop ! Non, 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 on risque trop de dégâts. Et puis alors, comment s'extraire du trafic pour filer ? Pas de repli possible, donc. À la hauteur du Trocadéro, les conjurés abandonnent la poursuite. Déçus, exaspérés, en rage, l'un d'eux soupire. C'est que la 17e tentative. Ni le général, ni son épouse, ni son gendre à bord de la déesse, ni aucun agent du service de protection ne se sont aperçus de la moindre chose. De Gaulle pourra ce jour-là manger tranquillement avec Eisenhower à l'Élysée. De quoi les deux généraux parlent-ils ? Par interprète interposé ? De la guerre froide, sûrement. De l'attitude à convenir face à la Russie. Ils s'entretiennent à propos du jeune président Kennedy. De Gaulle évoque la visite en France, l'année précédente, du jeune couple. Du 31 mai au 2 juin 1961, John et Jackie Kennedy ont séduit le peuple français. John est un admirateur de l'homme de juin 40. Mais les avis des deux hommes divergeaient sur tant de points, même sur l'Indochine. Heureusement, les deux grands hommes se respectent. Le général a confié à Kennedy que ce dernier avait repris la relève de l'Amérique dans des conditions plus que difficiles. Heureusement, il y avait également Jacqueline Kennedy, qui essayait de retrouver son niveau de français et qui, avec son tailleur jaune, avait illuminé les marches de l'Élysée. De Gaulle vantera son charme, sa culture, son sourire. Il ne négligera rien pour lui plaire et même la faire rire. Quand elle lui demandera chez quel chef d'État il a rencontré le plus haut sens de l'humour, il répondra avec un fin sourire. « Staline, madame !» Cette boutade amusera beaucoup Eisenhower. En cet été 1962, le président semble donc plus détendu. Il vient de mettre enfin un terme au conflit algérien. Cessez-le-feu le 18 mars, puis proclamation de l'indépendance de l'Algérie. « Ces peuples, déclare De Gaulle, n'ont rien à voir avec le nôtre. » Et dans une confidence privée, il lâche. « Nous ne pouvons soutenir à bout de bras une population prolifique comme des lapins. » Au début de l'été, De Gaulle a donc toutes les raisons d'être rassuré. Il attendait l'apaisement. Il est arrivé. Les Français chantent « Le clair de lune à Maubeuge », un succès phénoménal. Clo-Clo est déjà en tête du hit-parade. Salut les copains devient un journal. Tout va bien donc. Mais non. La rue, elle, ne s'apaise pas. Au contraire, la violence redouble. Une vague d'attentats organisée par l'OAS ravage la métropole. Des morts, des blessés partout. Une violence jamais enregistrée. De Gaulle est désarçonné. Et il a cette phrase célèbre, mais désappointée. En 1944, les Français étaient malheureux. Maintenant, ils sont mécontents. C'est en progrès. Cette accélération des explosions va atteindre son paroxysme au cours de l'été. Elle sera couronnée par l'attentat le mieux préparé et le mieux armé, celui du petit Clamart, le 22 août 1962. Bastien Thiry ne pense qu'à ça. La chasse à De Gaulle. Après l'échec de Pont-sur-Seine, il a multiplié les projets. Dynamitage de routes sur le trajet du président, jets de grenades et tirs de fusils mitrailleurs. Aucun n'a abouti, en raison de l'efficacité du service d'ordre qui protège le général. Obstiné, Bastien Thiry, nom de code Didier ou Germain, peaufine ses nouveaux plans. Précise ses processus d'attaque. Il veut organiser un attentat à la hauteur de l'espoir de l'OAS. Petit Clamart sera sa 7e tentative en quelques semaines. Du côté de l'Élysée, au cours du Conseil, le ministre de l'Intérieur révèle que les renseignements ont eu vent de nouveaux préparatifs d'attentat. Le président reste muet. Il ne semble pas concerné. D'ailleurs, lors de ses sorties privées, il ne supporte pas l'escorte des voitures et des motocyclistes. Le ministre de l'Intérieur le supplie de coopérer et d'être prudent. Réponse du général de Gaulle. Faites votre travail, je fais le mien. Le jour fatidique de l'attentat, à la fin du Conseil des ministres, la DS 19543 HU 75 vient se ranger devant les marches de l'Élysée. Il est 19h30. Monsieur et Madame de Gaulle prennent place dans le véhicule. Le président occupe le siège arrière gauche, à côté d'Yvonne. C'est encore Francis Maroux au volant. À sa droite, le colonel Alain de Boissieux, gendre des de Gaulle. Bonneval et lui se concertent à propos de l'itinéraire qui doit rester secret le plus longtemps possible. Au Parmedon, suggère Boissieux. Non, conseille Bonneval. À cette heure, on va tomber dans la circulation. Il décide de prendre la route de Clamart. À peine l'itinéraire choisi, le convoi démarre. L'escorte est assurée. Ce changement d'itinéraire de dernière minute accentue la sécurité. Toujours cette obsession de la taupe à l'Élysée. Oui, mais les conjurés ont tout prévu. Ils ont placé le fameux Pierre, le guetteur de Bastien Thiry, à proximité du Grand Palais. Son rôle, voir si le convoi franchit ou non la Seine. S'il la franchit, De Gaulle passera par Clamart. Si pas, ce sera Meudon. Et aujourd'hui, ce sera donc Clamart. On ne sait comment les comploteurs assurent leur liaison, mais toujours est-il que 20 minutes plus tard, le commando est en place, avenue de la Libération, route nationale 306, un peu avant le carrefour de Clamart. Clamart qui va entrer dans l'histoire. Bastien Thiry a mis sur pied un coup de maître, un authentique assaut de guerre, une souricière de type militaire. Il a recruté 11 hommes. 10 ont en main des armes automatiques. Armes et explosifs sont prêts. 4 véhicules quadrillent la nasse installés au carrefour du Petit Clamart. Bastien Thiry a rangé sa Simca 1000 avant le carrefour. Il tient à la main un exemplaire du journal L'Aurore qui servira de signal. Il a placé 3 autres véhicules pour quadriller le carrefour. Une estafette Renault jaune est arrêtée près d'une station essence. À l'intérieur, 5 hommes munis de fusils mitrailleurs. Une Citroën ID19 attend avec à son bord la Tocnay et Watin que nous avons déjà croisés lors de l'attentat en plein Paris. Ils sont armés jusqu'aux dents. En réserve, 3 hommes sont cachés dans une camionnette Peugeot 403. Le piège est prêt. Rien n'a été laissé au hasard. Le jour tombe, un crachin obstiné réduit la visibilité. Oui, le piège est prêt. Chaque homme sait ce qu'il doit faire. La force d'intervention des conjurés est mortelle. 20h08. Bastien Thierry aperçoit la déesse du chef de l'État, le véhicule du docteur et les deux motards qui ferment le convoi. Montée d'adrénaline. Bastien Thierry agite son journal, l'Aurore. C'est le signal. Une première salve part, assez nourrie pour mettre fin à la Ve République. C'est Alain de Boissieu, à côté du chauffeur, qui a la meilleure vue d'ensemble sur l'attaque. Il voit jaillir les balles sur la chaussée, repère l'estafette Renault, dont les portes arrière s'ouvrent, et il a compris. Leurs occupants vont les faucher tous. Et il crie à Marou d'accélérer. À la hauteur de la roue gauche de l'estafette, avec un pistolet mitrailleur de 7,5 mm, un tireur les attaque de face. Boissieu voit distinctement l'arme qui oscille sous les rafales. Il se retourne, vérifie si ses beaux-parents n'ont pas été touchés et leur ordonne de se baisser. Devant eux, la longue nationale, il doit trouver une rue à droite ou à gauche pour fuir ce feu nourri. Le chauffeur comprend. Boissieu, lui, hurle. Non, non, tout droit, au milieu, vous foncez! C'est alors que surgit devant eux une panhard. Mais personne ne tire, évidemment. C'est le véhicule d'une brave famille française. Par contre, à gauche, il y a une Citroën ID, vitre baissée, et deux tireurs qui arrosent la voiture présidentielle. C'est la deuxième équipe mise en embuscade. Boissieu se retourne, De Gaulle est figé sur son siège. « Mon père, baissez-vous » supplie-t-il. À cet instant, la vitre arrière vole en éclats. Yvonne De Gaulle ne réagit pas, un sang-froid parfait. Elle attend que son mari lui donne l'exemple. À l'arrière, la Citroën ID du commando prend en chasse la voiture d'escorte. Les tireurs visent les deux motards. L'un d'eux porte la main à son casque. Il semble touché. Pourquoi à cet instant, la Tocnet n'a-t-il pas lancé l'idée sur le véhicule présidentiel pour le stopper et l'arroser de balles? C'est là que les conjurés ont raté l'attaque. Marou, lui, réagit parfaitement. Il s'échappe du piège à 90 km/h, malgré les deux pneus crevés et la boîte de vitesse complètement bousillée. Les rescapés font saut plus vite. Le véhicule des mercenaires de l'OAS s'esquive par une rue adjacente et prend de la distance. Les exécutants sont persuadés d'avoir abattu la grande Zora. Ils se replient. La déesse présidentielle tente de gagner l'aéroport de Villacoublay. Elle sent le caoutchouc brûlé. Elle tangue comme une barque. Les vitres sont en miettes, le vent chasse. Boissieu demande à Marou, « Vous pourrez gagner, Villacoublay ?» Eh ben, il va essayer. À l'arrière, le général et madame ont repris leur position impassible. Quel cran ! Ils sont couverts d'éclats de vitres. Le général brosse son costume d'une seule main. On arrête la déesse. Ne sont-ils pas atteints dans le dos, dans les reins ? Le médecin intervient. Un miracle. Personne n'est blessé. Boissieu n'en croit pas ses yeux. La tuerie a duré exactement une minute, ou mieux, 45 secondes, entre 20h09 et 20h10. À Villacoublay, l'avion pour Saint-Dizier attend le convoi. Arrivé sur le tarmac de l'aéroport, De Gaulle avoue quand même. Cette fois, c'était tangent. Il le reconnaît. Yvonne De Gaulle, elle, aura la question la plus amusante, malgré le stress. « Les poulets !» s'écrie-t-elle. « J'espère qu'ils n'ont rien !» On la rassure. Les policiers de l'escorte sont indemnes. Non, corrige-t-elle, je parle des poulets en gelée, achetés chez Fauchon pour déjeuner avec les Pompidou. Ils sont dans le coffre de la déesse. On la rassure. Ils n'ont reçu aucun projectile. À peine arrivé à sa résidence de la Boisserie, le président appelle Pompidou au téléphone. Cher ami, ces gens-là tirent comme des cochons. La servante, le soir, l'entend murmurer comme à lui-même. Foutu tireur. Au 36 Quai des Orfèvres, l'équipe du commissaire examine la voiture présidentielle. 8 balles ont percé la carrosserie à hauteur du visage du couple De Gaulle. Une a traversé le siège du colonel de Boissieu. Les occupants n'avaient pas une chance sur 1 million. Les balles sont parties de 3 angles différents. on ramassera 187 douilles sur l'avenue de la Libération. On relèvera des impacts sur les façades des magasins et des bistrots du carrefour. L'avenue s'appellera désormais avenue de Gaulle. Le café Trianon, criblé d'une vingtaine de projectiles, changera son enseigne en « Au Trianon de la fusillade ». Le seul blessé, légèrement, faut-il le dire, sera le chauffeur de la Panard. Vous vous souvenez, la déesse l'a croisé en pleine fusillade. Il montrera son doigt, entouré d'un gros pansement, à toute la presse. Pendant ce temps, à la boisserie, c'est la confusion. Il y a les radios, les gendarmes mobiles, les gorilles, les aviateurs, bref, tout le système de protection. Les téléphones se mettent à grésiller. Dans la salle du mess, comprenez, la cantine des officiers. Chacun déguste son café, son pousse-café, quand soudain surgit un gendarme. Ils l'ont flingué ! Par radio, par téléphone, les nouvelles se précisent. Le coup a échoué. Toute la nuit, les téléscripteurs ont pianoté. Le lendemain, 23 août 1962, la presse titre sur l'événement. Et le paisible Colombey les deux églises est envahi par des journalistes venus de partout. Une meute qui se bouscule dans les quelques bistrots de ce village de 300 habitants. Ce qu'ils veulent tous, c'est voir le général, vérifier qu'il est bien vivant. Certains photographes escaladent même l'enceinte de la boisserie. Ils veulent immortaliser le rescapé de la tuerie à l'aide de leur téléobjectif. Les gendarmes mobiles les prennent en chasse. Attendez 18 heures quand le président fera sa promenade dans le parc avec les siens. Les pellicules photos vont offrir au monde entier la preuve irréfutable que le général de Gaulle a eu beaucoup, beaucoup de chance et qu'il n'a aucune égratignure. La police, les renseignements sont très vite sur la piste des conjurés. Ils mettront 10 semaines pour arrêter et incarcérer 6 d'entre eux. Le 17 septembre, Bastien Thiry est capturé. Mais 3 autres tireurs resteront introuvables. Quand le président apprend l'arrestation du chef du commando, il confie à un proche qu'il fera preuve de clémence. Bastien Thiry, c'est un... Vous voyez ce que je veux dire. Il va s'en tirer avec 20 ans et dans 5 ans, je le libérerai. Mais au tribunal, Bastien Thiry fait de son procès le procès qu'il veut intenter à De Gaulle, qualifiant de génocide sa politique algérienne, l'accusant d'être un tyran. On dirait que, ayant raté sa cible de nombreuses fois, il préfère se sacrifier pour la cause de l'OAS et mourir en martyr. Il soutient que son intention n'était pas de tuer le général, mais de l'enlever pour le conduire devant ses juges. Les psychiatres le jugeront responsable de ses actes. Bastien Thiry est condamné à la peine capitale, comme deux de ses acolytes. Ce que le tribunal lui a surtout reproché, c'est le fait d'avoir tiré sur une voiture dans laquelle il savait qu'il y avait une femme qui n'avait rien à voir avec la politique algérienne. De Gaulle n'aime pas la peine de mort. Il est anxieux à chaque fois qu'il rejette un recours. Toutefois, après maintes hésitations, il refusera sa grâce au colonel polytechnicien. Peut-être parce qu'il ne peut tolérer ce genre d'action de la part d'un militaire. Le 11 mars 1963, Bastien Thiry est fusillé au fort d'Ivry, en égrenant son chapelet. Charles de Gaulle, lui, mourra paisiblement le 9 novembre 1970 à Colombey, victime d'une rupture de l'aorte. Il allait avoir 80 ans. Il s'est affaissé dans son fauteuil alors que les feuilles mortes et les ombres de l'automne entouraient la boisserie d'un paysage de France tel qu'il les aimait.